Donc je m'appelle Margot, j'ai 20 ans. J'étais en fac de lettres, j'ai maintenant fini ma licence. Du coup, je suis une femme cis. Je suis techniquement bisexuelle dans le sens où je peux être attirée enfin, par tous les genres, mais je m'identifie plus facilement comme gay ou comme lesbienne parce que enfin, c'est plus commode pour moi au niveau des proportions d'attirance, si on peut dire ça comme ça. Jusqu'à cette année, en fait, j'étais surtout dans un milieu qui était très hétéro, ce qui a changé cette année, du coup, en arrivant à la fac et à Rennes. Et du coup, avant, c'était entre guillemets plus facile d'avoir des relations avec des hommes qu'avec des femmes au niveau des gens que, enfin, des personnes que je connaissais.
Tu écoutes Hétérogène, le podcast sur l'influence des représentations LGBTQ+. Voici le quatrième épisode, l'épisode de Margot.
Oui, la bisexualité, du coup, il n'y a pas besoin d'avoir une attirance qui est égale envers les différents genres. Je suis plus attirée par les femmes malgré le fait que j'ai eu plus d'histoires avec des hommes. Je pense que mon orientation sexuelle est plutôt importante dans mon identité. Enfin, c'est quelque chose auquel je me rapporte souvent dans la manière dont je construis mon identité et dont je la présente au monde, mais aussi dans les activités que je fais ou ce qui m'intéresse. Après, je me dirais pas forcément militante dans le sens où je suis pas dans des associations ou des cercles de parole ou quoi que ce soit. Enfin, c'est quelque chose pour lequel au quotidien, j'essaye de lutter au maximum. C'est avant tout faire de l'information parce que pour nous, ça a l'air évident, mais je veux dire, là où j'étais au lycée, en fait, c'est une ville, mais qui est surtout entourée de beaucoup de campagnes. Et les étudiants de ce lycée sont des gens de la campagne, en fait, qui n'ont pas forcément accès à toutes ces informations et qui surtout connaissent pas des personnes qui peuvent être concernées. Et qui se posent jamais de questions par rapport à tous les stéréotypes qu'on a, en fait. Du coup, c'est surtout ça, montrer qu'on est là et que tout ce qui en découle et toutes les oppressions qui en découlent. Donc, c'est surtout, de l'information par rapport à ces personnes-là que je fais. J'ai des amis qui essayent vraiment de comprendre au maximum. Donc, ça me dérange pas vraiment de faire cette information-là. Après, je vois ces personnes-là très peu souvent aussi. Donc, c'est surtout sur de courtes périodes où je fais beaucoup ça, mais pas du tout sur toute l'année. Donc c'est pas si fatigant que ça. Le seul obstacle que j'ai par rapport à ça, c'est les gens qui ne veulent pas comprendre et qui en fait, enfin quoi qu'on leur dise, resteront avec ce qu'ils ont et qui continueront à agir comme ils le faisaient déjà, enfin sans prendre en compte en fait tout ce qu'on essaye de leur apprendre pour qu'ils soient plus respectueux. J'ai pas beaucoup connu ce genre de personnes. Il y a juste une fois où j'ai une amie qui avait l'air tout à fait ouverte et tout ça. En fait, un jour, j'ai dû m'éloigner d'elle parce que on a eu une discussion où elle a fini par me dire que pour elle, les personnes LGBT, enfin quel que soit leur genre ou leur orientation sexuelle, ne devraient pas avoir accès à l'adoption et au mariage comme des personnes hétéro et cis. Et en fait, enfin au début, sachant que moi, je suis pas concernée par ça dans le sens où je veux pas me marier, et je veux pas d'enfants. Je me disais, c'est mon ami, peu importe ce qu'elle dit, je vais passer outre. Et en fait, au fur et à mesure des jours, j'arrêtais pas d'y penser et j'ai compris qu'en fait, non, je voulais pas traîner avec ce genre de personne et je voulais pas devoir présenter ce genre de personne comme mon ami, en fait. Le fond de son propos, en fait, c'était d'attaquer directement les personnes qui ne sont pas comme elle, du coup. Et c'est quelque chose que j'ai compris après en y réfléchissant. C'est que c'était avant tout une attaque contre, du coup, les personnes LGBT, plus que par rapport aux choix individuels. Pour moi, la communauté LGBT, du coup, c'est toutes les identités les orientations sexuelles et les identités de genre, enfin, qu'on voit directement dans le nom. Il n'y a pas nécessairement un esprit militant dans le fait de faire partie de la communauté LGBT, parce que j'en vois beaucoup qui disent que le fait de se revendiquer LGBT, ça doit obligatoirement être accompagné, en fait, d'un militantisme. Et je trouve que c'est, enfin, carrément exclusif de dire ça. Dans le sens où on n'a pas, en fait, on n'a pas besoin de militer, de lutter tous les jours et de s'épuiser à faire ça pour être légitime en fait dans ce groupe. Si on s'y reconnaît et si c'est un moyen pour nous de trouver une famille, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément cet entourage-là pour les soutenir, si c'est dans le groupe LGBT qu'ils doivent les trouver, je pense que personne n'a son mot à dire sur la légitimité de quelqu'un à rejoindre ce groupe, simplement parce qu'il fait pas acte de militantisme comme d'autres personnes. En fait, avant cette année, je me suis jamais vraiment intéressée je me suis intéressée à la communauté LGBT, mais pas vraiment à la culture qui est rattachée. Pour moi, la culture LGBT et toutes les représentations qu'on peut voir dans les médias ou dans la culture populaire, c'est quelque chose qui peut nous aider à nous poser les bonnes questions et à voir surtout que des personnes comme nous sont là et qu'on n'est pas seul à ressentir ce genre de choses Et du coup, pour moi, c'est vraiment des référents qui peuvent être très utiles et surtout apporter un soutien émotionnel dans le sens où on se reconnaît dans ces personnes, dans ces personnages. Au niveau de la représentation dans les médias, je trouve qu'elle est très, très inférieure à ce qu'elle devrait être. Et il y a surtout un traitement des personnes LGBT dans les médias qui est assez abject, en fait. Par exemple, ce qu'on trouve à la télé, que ce soit dans les fictions, je crois très rarement avoir vu un personnage LGBT dans des fictions qui passent sur les chaînes câblées que tout le monde a. Dans les médias type les journaux ou les espèces de talk show type touche pas à mon poste, etc., n'en parlons pas. Des gens qui outent leur animateur sans consentement ni rien, enfin tout ça c'est relativement abject et il y a vraiment quelque chose à corriger là-dessus. Dans les divertissements qu'on peut trouver sur Internet, enfin sur Netflix ou sur d'autres plateformes ou au cinéma, je trouve qu'il y a vraiment un effort qui est fait, même s'il reste toujours très inférieur à ce que ça devrait être parce qu'on tombe toujours dans les mêmes genres de schémas, enfin. Ou le problème dans un film pour, par exemple, une personne trans, c'est sa relation avec elle-même et tout ça, et jamais toute la pression que le monde lui fait subir et toutes les oppressions. Et en fait, on ne montre pas du tout ce qui devrait être montré, c'est-à-dire une personne qui apprend à vivre avec ce qu'elle est, à s'accepter et à vivre comme toute autre personne, parce que c'est ce qu'elle est, enfin, une personne normale, et je trouve ça déjà incroyable de devoir le dire. Mais dans ces médias-là, c'est pas ce qu'on nous montre non plus. Voilà, pour moi, on tombe toujours dans les mêmes schémas et qu'il faudrait en fait corriger pour arriver à montrer quelque chose qui soit conforme à la réalité et qui surtout soit un bon modèle pour les personnes qui n'ont pas encore le recul par rapport à tout ça et qui peuvent pas prendre du distance et voir qu'en fait, c'est pas toujours comme ça et c'est pas, enfin, ça va pas être comme ça. Pour moi, tomber dans des schémas, c'est toujours quelque chose de dangereux puisque ça enferme des gens dans ce qu'ils sont pas forcément et qui peuvent les pousser à des relations qui ne sont pas forcément saines. Par exemple, le fait qu'un jeune d'à peine 18 ans se mette à rencontrer des gars de 50 ans parce qu'ils lui apprennent la vie et tout ça, et qui se construit seulement par rapport à cette relation qui est pas, enfin, où il y a toujours un parti qui a un ascendant sur un autre. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit très formateur en fait, pour un jeune, enfin, une personne concernée. Après, voilà, il y a d'autres, tous les stéréotypes qu'on a par rapport à la communauté LGBT qui sont toujours très présents dans les médias et qui facilitent beaucoup la vie des personnes qui ne le sont pas parce que ça permet d'enfermer des choses que l'on ne comprend pas ou que l'on ne connaît pas dans des modèles qui nous facilitent la vie parce qu'on aime bien les petites boîtes, c'est plus commode. Donc, il vaut mieux éviter les schémas. Je ne sais pas vraiment si j'ai des personnages qui m'ont marqué à un jeune âge ou quand je commençais à me poser des questions. Tout ce dont je me souviens, c'est à quel point, enfin, on voit plus d'hommes gays dans la culture populaire que, par exemple, de femmes lesbiennes ou de personnages trans, voilà. Du coup, c'est en voyant la série Glee où dedans il y a des personnages qui sont, enfin, deux femmes qui sont lesbiennes, que je me suis rendu compte à quel point, en fait, enfin, même si toute représentation LGBT est pas terrible à mon goût, hein, dans les médias ou la culture populaire, c'est pas au même point. Enfin, je me suis pas forcément posé de questions par rapport à moi-même à ce moment-là, mais ça m'a fait me rendre compte que elles étaient là. Je pense pas avoir eu d'autres vraiment, enfin, personnes ou personnages qui aient précédé un questionnement ou quoi. Le fait de voir ces personnages d'Angly, ça a dû être au milieu de mon collège, je pense. J'ai pas forcément eu de déclic comme quoi il y avait un manque de représentation, puisque enfin à cette époque-là, c'était pas quelque chose qui me concernait. Enfin, je ne le pensais pas. Mais c'est en fait rétrospectivement que je me suis rendu compte que ces personnages-là avaient eu un impact sur moi, dans le sens où à l'époque, c'était les seuls que je pouvais voir, en fait. Avant de voir ça, du coup, je savais que ça existait. Mais disons que chez moi, ça n'a jamais été un milieu très, très ouvert et très LGBT-friendly. Ce qui fait que pour moi, c'était des personnes pas forcément à part, mais des gens qu'on ne voyait pas forcément dans nos milieux parce qu'ils restaient à l'écart. Et qu'ils étaient d'une certaine manière, et chez nous, on ne pouvait pas être comme ça. J'ai pas vraiment eu de questionnement, puisque pour moi, ça a toujours été, jusqu'au moment où j'ai compris, pour moi, j'ai toujours été hétéro, parce que chez moi, il n'y avait pas vraiment de moyen d'être autrement. Enfin, j'entendais parler de certaines célébrités, mais c'était des gens, enfin, ils étaient assez mal regardés dans un sens, sauf exception. Mes parents n'étaient jamais à soutenir ce genre de choses, ou à me montrer que c'était quelque chose de possible, ou ne serait-ce qu'à m'informer, enfin. Je savais que ça existait, mais de très loin. Moi, je me souviens pas vraiment d'un moment où j'ai eu une réflexion. En fait, je me souviens juste qu'un jour, qu'à une certaine époque, je le savais. Mais je sais aussi que quelques mois avant, c'était inconcevable pour moi de pas être hétéro. Mais à peu près, le moment où j'ai compris, c'était en entrant au lycée, en fait. Et avant le lycée, j'ai toujours été dans des collèges qui étaient privés, très, très guindés et très, bah, très fermée, quoi. Et quand je suis entrée au lycée, je suis passée dans le public, dans un lycée que j'ai eu la chance d'avoir très, très, enfin, qui était très, très ouvert, avec des personnes géniales et des profs qui ont toujours soutenu. J'ai rencontré des personnes extraordinaires là-bas qui, du coup, m'ont beaucoup plus ouverte à ces réflexions. J'ai arrêté de m'identifier comme hétéro parce que bah, j'ai compris que je l'étais pas, que je l'avais jamais été, mais que autour de moi, on m'avait jamais dit que je pouvais éventuellement ne pas l'être. Quand j'ai compris que j'étais pas hétéro, du coup, je me suis directement identifiée comme bisexuelle, puisque c'était en fait le plus commode à l'époque. C'était le mot que j'avais et qui fonctionnait très bien pour ça. Mais à l'époque, pour moi, c'était être bisexuel, c'était vraiment 50-50. C'était oui, éventuellement, je peux tomber amoureuse, avoir des relations avec des filles, mais au même titre avec des garçons. Et c'est quelque chose du coup que j'ai retravaillé ou re-questionné 2 ou 3 ans après. Bah du coup au lycée, je me souviens pas vraiment de. J'ai toujours été très très claire avec mes amis au lycée parce que bah, comme je l'ai dit, ils étaient très ouverts et il y avait aucun souci par rapport à ça. Comme j'avais jamais dit à personne que j'étais hétéro parce que personne ne le fait, j'ai pas vraiment dit aux personnes que j'étais bi. Ça a plus été dans le sens ah je suis peut-être attirée par cette fille là. Et du coup, bah, mes amis ont compris très naturellement, en fait. Au lycée, j'avais plusieurs amis qui étaient, qui n'étaient pas hétéros non plus. Et du coup, c'était très, très clair pour tout le monde, en fait. Donc, j'ai jamais vraiment eu besoin de faire des coming out à mes amis. Donc, voilà, au niveau de mes amitiés et des personnes que je côtoie, qui ne sont pas de ma famille, ça a toujours été très clair. Ma famille, ça a été beaucoup plus compliqué. Je suis à moitié out. Je ne sais pas comment vraiment expliquer ça, en fait. La première personne à qui je l'ai dit, c'était ma mère. Je lui ai dit à la fin de mon lycée. Sauf qu'en fait, on était dans une grosse engueulade, dans laquelle je lui ai dit beaucoup de choses. Et après, je me suis rendu compte que j'en avais peut-être trop dit pour, pas pour ma sécurité, mais pour, comment dire, je voulais pas en fait avoir à subir des remarques tout le temps. Et j'ai un peu fait marche arrière en disant, dans cette conversation, je t'ai dit des choses vraies, je t'ai dit des choses fausses. Et c'est à toi de démêler en fait le vrai du faux et tu sauras jamais ce qui est vrai dans ce que je t'ai dit. Du coup, je pense qu'elle a dû se dire que ça, c'était... C'était un mensonge et que c'était pour l'énerver, ce qui n'était pas le cas. Et il y a quelques mois, je lui ai refait un coming out, mais qui n'était pas... C'était pas quelque chose d'officiel comme on peut le voir ou comme on peut l'imaginer. C'était vraiment au détour d'une conversation, dans le sens où mon frère voulait aller en Russie et je lui ai dit « jamais j'irai dans un pays qui met les gays en prison ». Et ma mère m'a dit « qu'est-ce que ça peut te faire ? T'es pas gay de toute façon ?» Et je lui ai dit « bah si ». Et du coup, voilà, c'est le seul coming out que j'ai fait. Normalement, elle a compris, mais je pense qu'il y a toujours une part de déni qui fait que tant que je le dirai pas de manière très évidente, ce sera jamais très clair pour elle et je serai toujours hétéro dans sa tête jusqu'au moment où je présenterai ma petite copine ou quelque chose comme ça. J'ai des super relations avec ma mère, même si c'est très très explosif de temps en temps. Et il y a des choses chez elle qui me dérangent beaucoup, bah, par exemple le fait de refuser d'admettre bah, que je suis la personne que je suis en fait. Et il y a toujours un gros problème avec elle, dans le sens où elle dénigre toujours tous mes choix, ce qui fait que ça rend beaucoup de choses compliquées. J'ai toujours eu beaucoup, beaucoup de problèmes avec mon père. C'est quelque chose qui remonte très longtemps, et qui se sont amplifiés du coup avec le divorce de mes parents. Et heureusement, je le vois très peu, ce qui fait que quand je le vois, ça se passe bien. Mais je sais qu'on est en désaccord sur beaucoup de choses, ce qui fait que j'ai du mal à pardonner certaines choses qu'il a pu faire ou qu'il a pu dire. Mon père a toujours été beaucoup plus homophobe que ma mère, donc c'est toujours beaucoup plus compliqué. Je suis pas du tout out avec lui et j'ai pas vraiment l'intention de l'être. Le reste de ma famille, j'en ressens pas vraiment le besoin, même si au niveau de mes grands-parents c'est beaucoup plus ouvert et mes frères et sœurs le sont aussi, donc ils doivent le savoir parce que je trouve que c'est quand même assez évident. Mais voilà, j'ai pas vraiment fait de coming out qui soit très bien passé ou très mal passé. C'était vraiment au détour d'une conversation et ça n'a pas plus d'impact sur moi que ça. Enfin, je ne ressens pas nécessairement le besoin de le faire. Donc ça restera comme ça pour l'instant. Et j'ai déjà anticipé un coming out, dans le sens où j'ai déjà réfléchi à le faire. Et voilà, ce qui me poussait plutôt à ne pas le faire, c'était à la fois le fait que j'en ressentais pas le besoin et que je ne voyais pas pourquoi je devais mettre ça sur la table comme ça, alors que mes frères et sœurs, qui sont peut-être normalement hétéros, n'avaient pas à le faire parce que bah, chez nous, c'est comme ça, on est hétéros, ça ne sert à rien de le dire. Du coup, de un, je voyais pas pourquoi moi j'aurais à le dire. Et de deux, oui, je voulais pas en fait détruire des relations, surtout avec ma mère, je me suis pas toujours très bien entendue avec elle. Et je voulais pas détruire une relation que j'ai mis du temps à construire en lui disant ça, même si ça m'aurait fait me sentir peut-être mieux. J'avais davantage peur d'une distance que pourrait mettre ma mère avec ça et enfin du déni dont elle fait toujours preuve que du fait de vraiment s'éloigner et qu'elle enfin des choses qui peuvent arriver hein, pour des gens qui font leur coming out à leurs parents mais enfin jamais ma sécurité ou quoi que ce soit a été en danger mais c'était voilà je voulais pas gâcher une relation en fait. Je pense pas que le coming out ce soit une fin en soi dans la construction de notre orientation sexuelle. Dans le sens où j'aurais très bien pu faire mon coming out à l'époque où je pensais être attirée de manière égale envers les filles et les garçons, alors que plus tard j'ai découvert que pas du tout. Enfin, pour moi, il n'y a pas vraiment de construction, mais il y a plus une évolution. Toute ma personne évolue en même temps que les choses auxquelles je m'intéresse en fait. Par exemple, je pense que enfin, mon féminisme a une grande influence sur mon orientation sexuelle, dans le sens où en me rendant compte de certaines choses qui se passe et qui ne devrait pas. Je tends à m'éloigner de tout l'univers masculin pour essayer de m'entourer surtout de femmes. Enfin, je m'y sens plus à l'aise et plus en sécurité. Et je me reconnais beaucoup plus dans ce genre de milieu. À titre personnel, je suis tout à fait favorable au concept de non-mixité. Enfin, à mon sens, ça permet aussi d'ouvrir la discussion et de poser des questions qui ne sont pas abordées de la même manière dans des groupes en non-mixité. Puisque bah, enfin, c'est bien connu, mais la parole des femmes se délie dans ce genre de groupe en non-mixité. Et du coup, pour moi, ça pourrait être vraiment que du positif. Même dans le milieu LGBT, même dans le milieu queer, etc., il y a quand même une misogynie qui reste très présente, en fait, y compris chez des mecs gays ou tout ça. Enfin, personne n'exempte ça. Du coup, si je devais donner des conseils à des personnes plus jeunes qui débutent ce cheminement, je dirais surtout enfin de pas se mettre de barrière dans les réflexions, puisqu'il vaut mieux enfin réfléchir à beaucoup de choses pour en exclure certaines et pouvoir se reconnaître quelque part, à ne pas sentir que notre milieu est en fait une barrière à ce qu'on est, et à surtout ne pas hésiter à s'éloigner de ce milieu en fait s'il devient trop toxique et qu'il l'empêche d'être ce qu'on est en fait, et aussi ne pas sentir une fois que on est au clair avec notre orientation sexuelle ou notre identité de genre que le coming out, c'est une étape obligatoire pour pouvoir être accepté, pour pouvoir être au clair avec soi-même, pour pouvoir s'accepter soi-même, puisque le coming out, c'est pas du tout une fin en soi, et qu'il faut avant tout penser en fait en termes de sécurité, c'est-à-dire que moi j'ai eu la chance de savoir que même si je le disais, j'aurais jamais de vrais problèmes, mes parents m'auraient jamais mis dehors, ils m'auraient jamais, enfin j'aurais jamais été en danger par rapport à ça. Mais c'est pas du tout le cas partout, dans le sens où il y a encore beaucoup de jeunes qui se font chasser de chez eux. Il y a beaucoup de jeunes des familles religieuses à qui on veut pratiquer des exorcismes. Il y a encore des thérapies de conversion en France. Donc oui, le conseil principal, c'est de rester en fait, enfin, de connaître ses limites et de savoir dans quel milieu on évolue pour pouvoir en fait se faire passer avant et rester en sécurité quoi qu'on veuille faire en fait, puisque enfin le coming out, ça peut aider d'avoir la validation de son milieu et tout ça. Mais pour moi, ça peut faire vraiment plus de mal que de bien dans certains cas. Et du coup, enfin, bien retenir ça, qu'on n'a pas besoin de la validation d'autrui pour être légitime dans ces milieux-là. Et qu'il suffit en fait d'être au clair avec soi-même et de s'accepter soi-même avant de vouloir absolument l'acceptation des autres, en fait. N'écoutez pas les gens qui vous disent que vous n'êtes pas assez. En fait, vous êtes toujours assez tant que vous êtes assez pour vous-même. Cherchez toujours à progresser parce que c'est tout ce qui compte, mais progresser par rapport à vous. Parce que les autres, ils n'ont pas leur place dans votre vie, en fait, s'ils ne sont pas capables d'accepter la personne que vous êtes. Et c'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre, mais qui me facilite grandement la vie maintenant que je l'ai compris. Ne gardez pas des personnes qui peuvent avoir des comportements toxiques autour de vous, parce que quelle en est l'utilité? On n'est pas là, on n'est pas sur Terre pour se rajouter des problèmes. Donc, si des personnes sont inintéressantes ou fermées d'esprit, il faut juste s'en éloigner et continuer notre vie. Voilà.
Tu viens d'écouter Hétérogène. Si tu as aimé cet épisode, tu peux laisser 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcast ou toute application le permettant. Je t'invite aussi à rejoindre les réseaux sociaux de l'émission @HérogènePod. À très vite!